With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Salut à tous et bienvenue pour ce rendez-vous quotidien consacré à la draft NFL 2022, chaque jour consacré à une franchise, et ce pendant 32 jours jusqu'au grand événement prévu le 29 avril du côté de Las Vegas. Aujourd'hui, on va parler des New York Jets avec les besoins prioritaires à considérer de la part de Joe Douglas, le general manager, et de Robert Saleh, le nouvel head coach, donc pour sa deuxième année aux commandes. Quelques mouvements enregistrés pendant la free agency, je vais les détailler tout de suite après avoir salué M. Victor Roulier. Salut Victor.
Et bonjour Grégory, les jours filent à une vitesse. J'ai l'impression qu'on s'est vu il y a 5 minutes.
Tout à fait. Mais ça reste toujours un plaisir, on le répète. Hein.
Toujours, toujours.
Donc, plus sérieusement, du coup, voilà, quelques signatures. Rien de bien flashy du côté des Jets, mais on a priorisé notamment la défense avec la signature de DJ Reed, cornerback de Seattle. On a Jordan Whitehead, safety de Tampa, qui est arrivé également. Et puis, du côté de la ligne défensive, on a notamment enregistré l'arrivée de Jacob Martin, l'ancien pass rusher des Houston Texans. J'essaie de voir si je n'oublie personne. Et je crois que c'est globalement les principaux mouvements. Laken Tomlinson, quand même, bien entendu, sur la ligne offensive, qui a été la principale recrue offensive en provenance des San Francisco 49ers. On reste dans les principales équipes qui sélectionnent lors de la draft. Victor, il y a forcément encore pas mal de besoins du côté de New York. Au niveau des sélections, on a également, comme Houston hier, 2 premiers tours de draft, le 4e et le 10e. Donc, ça va être intéressant de savoir ce que peuvent faire les New Yorkais dans le top 10. Et puis, on aura par la suite 2 deuxièmes tours, 1 troisième tour. Et puis, on terminera, s'il n'y a pas de trade, bien entendu, par 2 quatrièmes et 2 cinquièmes. Donc, ça nous laissera quand même des beaux choix, a priori, dans l'optique des sleepers dont on parlera tout à l'heure après avoir abordé les 2 premiers choix des Jets. Du coup, c'est moi qui ai le lead pour ce 4e choix. Alors, dis-nous globalement, qu'est-ce que tu penses de cette intersaison des Jets et où tu vois un petit peu des zones d'ombre, des difficultés à venir?
Oh, je pense qu'ils ont été, ils n'ont pas été flashy, mais ils ont été plutôt efficaces. J'ai envie de dire que le problème historique des Jets, c'est au niveau des edges. Alors, ils n'ont pas eu de chance l'année dernière avec Carl Lawson qui s'est blessé pour la saison. Mm-hmm. Mais si cette année, on peut avoir Carl Lawson et un autre joueur, ça serait pas mal. Au niveau des receveurs, je pense qu'il va falloir aussi travailler parce qu'il y a Elijah Moore qui est pas mal, mais le reste, c'est… Enfin, non, je suis dur, il y a Davis aussi, mais je pense qu'il faudrait un joueur un peu costaud.
Oui, il est un peu déçu pour sa première année, ouais, quand même.
Ouais, il va falloir du renfort quand même. Et en défense, au niveau des linebackers, bah, je ne sais pas si CJ Mosley, je pense qu'on est quand même sur catastrophe, entre les blessures, l'arrêt Covid, les contre-performances, et il n'est pas aidé autour de lui, je pense que linebacker va être un besoin. Et dernier, malgré tout, c'est inoffensif, parce que Tomlinson, très bien, Vera Tucker, très bien. Mais Mekhi Becton, va falloir voir s'il arrive à rester sur le terrain. Mm-hmm. Je ne dis pas qu'il est mauvais quand il est sur le terrain, mais encore faut-il qu'il y reste. Et on peut voir aussi du renfort à droite. Donc, voilà, c'est pour moi les axes principaux.
Alors, on va commencer du coup par ce 4e choix. Alors, on va essayer de déterminer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on était notamment resté sur les principaux choix concernant Jacksonville, Détroit et Houston. On avait parlé notamment de Tinson, Thibodeau, Hamilton, qui ont l'air de tenir la corde. Du côté des Jets, on peut aller dans pas mal de directions. Moi, j'avoue que mon premier choix s'orienterait plutôt vers la ligne offensive. On voit qu'elle a été pas mal considérée, notamment avec l'intérieur et l'arrivée de Laken Tomlinson pour booster encore un peu plus ce jeu au sol. Pour moi, je partirais plutôt sur un lineman offensif, en effet. Plutôt sur un tackle. Si Evan Neal n'est pas privilégié, puisque j'en avais parlé comme possibilité du côté de Houston, je pense que là, Charles Cross, ce ne serait pas une mauvaise solution. On a vu que George Fant avait été une agréable surprise sur le poste de tackle gauche qui pourrait amener Becton à repasser à droite la saison prochaine pour voir ce qu'il peut apporter. On ne sait pas combien de temps George Fant peut être performant, en tout cas s'il peut l'être vraiment sur la durée. Pourquoi pas aller chercher un Charles Cross, même si ça peut apparaître assez haut pour un quatrième choix. Il n'y a jamais de choix relativement haut pour aller chercher des potentiels tackle gauche d'envergure dans les années à venir. Donc, pourquoi pas le couver un petit peu et le mettre en concurrence avec George Fant dans un premier temps pour ensuite devenir le tackle gauche, le garde du corps préféré de Zach Wilson dans les années à venir.
Oui, c'est une stratégie que j'aime bien de me dire, voilà, comme tu dis, Becton, c'est peut-être finalement à droite qui pourra le mieux performer. Et du coup, ça fait sens de se dire qu'on renforce cette ligne. En effet, Fant, pour l'instant, c'est une belle surprise, mais c'est toujours pareil. Pour l'instant, c'est une saison. Si ça se trouve, ça va être 10 saisons et on va se dire, ah bah mince, il n'aurait pas fallu choisir un tackle. Mais ça, au niveau valeur, importance de la position et profit du joueur, je trouve ça assez logique.
Oui, après, je t'avoue, là, il y a plusieurs possibilités qui, par rapport aux principaux tackles. Voilà, Evan Neal, je dis, ça peut être une possibilité aussi. Equanu, je suis moins fan dans le sens où, alors, si vraiment ils veulent faire peur en ligne défensive adverse, c'est sûr que d'avoir Becton et Equanu en face à face, ça peut être un peu impressionnant, en tout cas au premier abord. Mais ouais, je trouve que niveau gabarit, ça fait peut-être un peu doublon et c'est pas plus mal d'avoir des profils peut-être un peu plus agiles sur l'extérieur de la ligne.
Je suis d'accord avec ça.
C'est plus dans cette logique. Tu avais une autre alternative ou tu étais d'accord là-dessus?
Moi, j'étais parti sur Jermaine Johnson. Donc après, voilà, on peut partir ligne offensive ou ligne défensive. Alors, pour le coup, certains vont peut-être penser que ça fait doublon avec Carl Lawson, ce que je peux comprendre. Après, je trouve que parfois, on est un peu trop dans la caricature de il faut un tight end receveur, un tight end blocker. Il faut un gros receveur, un petit receveur. Il faut un edge setter et un petit edge machine à sac. Parfois, on a un peu trop cette logique. Et finalement, quand on regarde des équipes qui marchent, bah, parfois, tu as deux joueurs du même profil, sauf que les deux performent et du coup, ça marche. Donc, même si certains vont peut-être avoir un peu de mal sur la complémentarité, un joueur physique, agressif, avec un tel QI football comme là, Jermaine Johnson, qui a prouvé sur le terrain au Senior Bowl qu'il était au-dessus des autres, lui, il peut devenir une vraie machine à sac. Et alors, pour le coup, Carl Lawson, Jermaine Johnson, il y en a peut-être un seul des deux qui réussira une belle carrière à New York, mais ça sera déjà bien. Ça fait 40 ans qu'ils attendent un edge numéro 1. Donc,
40 ans, t'exagères un peu, mais oui, j'entends l'idée.
Oh, tu vois ce que je veux dire. mais voilà, je pense que c'est aussi une des options sur lesquelles ils peuvent partir.
J'entends ce que tu dis. Mais après, voilà, ce n'est pas forcément des joueurs, paradoxalement, qui sont attendus dans le top 4 à l'heure actuelle. Mais je pense en tout cas que ce seront des joueurs qui ne seraient pas une mauvaise opération loin de là. C'est des joueurs accessibles top 10 sur lesquels les Jets pourraient miser pour après prendre un autre très bon joueur avec leur dixième choix. Justement, dans ta logique, si Jermaine Johnson est le quatrième choix, qui serait le dixième?
Ben là, j'ai envie de partir sur un receveur et j'ai un peu changé d'avis avec ce que je t'avais envoyé. Je me dis, il y a quand même un monde où Treylon Burks est disponible en 10. Et pour le coup, là, par contre, je tombe dans la caricature de dire on a plein de petits qui courent et on va chercher un grand, même si Corey Davis n'est pas particulièrement petit. Mais vraiment, Treylon Burks, c'est une soupape de sécurité pour un Zach Wilson. C'est un joueur qui rassure parce qu'il y a un 50-50 un peu difficile, il peut le faire. Il y a une screen, c'est un joueur tellement rapide pour son gabarit qu'il peut prendre la balle, casser un plaquage et faire 15 yards. C'est un joueur rassurant. Et je pense que Zach Wilson, aujourd'hui, il a besoin d'être rassuré. Et avoir ce genre de cible, ça peut aider.
Ouais, il y a un joueur que je ne prends pas sûr avec Zach Wilson, c'est Drake London.
Mais Drake London, il va pas aux Eagles, selon Monsieur Jean-Michel Boujard.
Non,
je te jure, bon. on aura tout vu.
Non mais... non, mais blague à part, oui, c'est vrai que le... ouais. Drake London, on est plus sur du côté vraiment. Là, on est plus sur du 50-50. Ouais. Et avec Zach Wilson, vaut mieux jouer plutôt sur des tracés un peu intermédiaires, un peu de la prise de vitesse après réception, au moins dans un premier temps, entendons-nous bien. Mm-hmm. Et on voit qu'avec Elijah Moore, ça peut faire ses preuves. C'est sûr qu'avec un Traylon Burks qui peut en plus apporter de la taille avec ça, on peut avoir une équipe des Jets hyper fun à voir jouer. Et en plus, dans le système Mike LaFleur, pardon, qui est pas sans rappeler justement celui de Shanahan, avoir deux receveurs comme Burks et Moore qui peuvent être vraiment des petites mobilettes après réception en ayant en plus une capacité à pouvoir répondre un peu aux défis physiques, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même. Quand il s'appelle Elijah Moore, il n'hésite pas à aller au contact s'il y a besoin, hein, même s'il a un gabarit moins avantageux que Traylon Burks, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose en soi. Alors, je vais choisir la même logique que toi, du coup. Moi, je suis parti sur un edge rusher. Je suis parti sur un edge rusher un petit peu plus tard avec le dixième choix. J'ai plutôt privilégié dans ce cas de figure-là George Karlaftis, qui, je pense, pour moi, peut être le cinquième edge éventuellement disponible dans le top 10. Après, je t'avoue...
Tu vois 5 edges dans le top 10, d'accord.
Ça peut.
Hein. Non, c'est pas impossible.
C'est pas impossible. Après... Et je vais reprendre la logique de Jean-Michel. J'étais pas forcément un grand fan de Trayvon Walker en quatrième choix. En dixième, ça me choquerait beaucoup moins.
Il est complémentaire. Là, pour le coup, il a cette vraie complémentarité avec Carl Lawson. C'est sûr. Mais les deux, d'ailleurs. Trayvon Walker et Karlaftis.
Mais je vais dire tout de suite. Karlaftis, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que je pense que Karlaftis sera disponible et que j'ai des doutes sur le fait que Walker le soit encore à ce moment-là, parce qu'il y a d'autres équipes qui ont des besoins, des équipes dont on parlera peut-être demain, par exemple. Pour le coup, à choisir entre les deux, j'irais peut-être plus sur Walker. Parce que je pense qu'il y a une marge de progression qui semble beaucoup plus impressionnante, et c'est aussi ce qui joue en faveur de Walker que Karlaftis. Mais en l'occurrence, on parle de joueurs qui sont déjà excellents tous les deux sur le jeu de course. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui va être très important dans le système défensif qui est prôné par Robert Saleh. Et en effet, c'est deux joueurs qui, à terme, peuvent contribuer de plus en plus sur le pass rush, ou en tout cas vraiment contribuer efficacement dans le gros système de rotation que souhaite mettre Robert Saleh sur sa ligne défensive. Donc voilà, franchement, aller chercher un edge rusher, vu cette classe et vu le fait que derrière le top 5, ça paraît peut-être, avec des grosses guillemets, un peu moins certain d'un point de vue impact immédiat, je me dis voilà, ou George Karlaftis si Trayvon Walker n'est plus disponible, ou tout simplement Trayvon Walker, defensive end de Georgia, je pense qu'en dixième choix, en complémentarité du quatrième choix que j'ai pris tout à l'heure, donc qui était Charles Cross, les lignes, ça me paraît là aussi un besoin extrêmement important du côté des Jets pour répondre efficacement, notamment aux Bills ou aux Patriots, par exemple, dans ce domaine. Ton sleeper, du coup, on va enchaîner sur notre joueur éventuel. Alors, on l'a dit, des choix au quatrième, des choix au cinquième. Qu'est-ce que ça t'incite à prendre éventuellement dans le titre de la draft?
Alors moi, je suis parti même plus loin. Je pense que là, on parle d'un sixième, d'un septième tour. Je suis parti sur Amari Barnaud.
Ouais. Ouais, ça peut être un quatrième. Hein. Il a montré des bonnes choses au combine. Mais...
C'est vrai.
Fin quatrième, hein. Je ne te dis pas non plus un mec. Mais non,
un choix compensatoire du quatrième.
Ouais, c'est ça. Non, honnêtement, quatrième, c'est peut-être même un peu haut. Début cinquième dans ces
années. En fait, le problème, c'est Amari Barnaud, c'est un super athlète, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas si ça doit être un off-ball linebacker, parce que c'est comme ça qu'il a commencé. Je ne pense pas que ça soit un pur defensive end. Du coup, je ne sais pas aujourd'hui comment utiliser, mais je trouve qu'il y a trop de capacités athlétiques pour ne pas l'utiliser, en fait. C'est là où il va falloir des coachs intelligents. Et je me dis quand même, Robert Saleh, ce n'est pas une buse, hein, théoriquement, en ce qui concerne les schémas défensifs. Donc, honnêtement, je ne sais même pas à quelle position il peut jouer. Mais je me dis, ce joueur-là, dans une sorte de linebacker hybride qui peut venir renforcer, tu sais, une ligne à 5 sur certains schémas de jeu, ou être en linebacker sur des premières tentatives où tu sais que ça va être de la course. par exemple, je trouve que c'est un joueur intéressant. Ce n'est pas un pass rusher, c'est très brut tout ça. Hein. On sent qu'il a de la puissance, il a de la vitesse, mais il apprend encore comment le canaliser. Et c'est pas toujours joli. Il y a des fois où l'action commence, elle est déjà finie pour lui. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a trop de choses, trop de capacités athlétiques, trop d'intelligence de jeu pour ne pas en faire quelque chose.
Oui, on est d'accord là-dessus. Je viens de repenser au passage, je m'en excuse, j'ai oublié dans les signatures importantes, c'est du Yuzoba quand même, hein, poste de Tyden.
Tout à fait.
J'étais en train de relayer tout ça, mais oui, je te rejoins totalement. C'est sûr que c'est un joueur, ça fait partie de ces joueurs qui peuvent être, ne serait-ce que dans un premier temps, au moins des joueurs capables de brouiller les cartes pour quarterback adverse, un joueur dont tu ne sais clairement pas ce qu'il est capable de faire. Mais je suis d'accord avec toi, il a montré vraiment une remise en question, une capacité à s'adapter dans beaucoup de situations du côté de Virginia Tech. Je ne pense pas que ce sera vraiment un defensive end classique, mais en effet, ça peut être un homme à tout faire et un linebacker un petit peu hybride qu'on peut utiliser dans beaucoup de situations, en effet. Amari Barno, c'est vraiment un profil que j'aime beaucoup. Je vais rester en défense parce que je pense que les Jets ont quand même ce besoin-là, et je parlais tout à l'heure du besoin de rotation, notamment sur la ligne, en tout cas du fait que Robert Saleh, que ce soit à San Francisco ou chez les Jets, aime beaucoup cette possibilité-là. La ligne intérieure m'interroge un petit peu. Hormis Quinnen Williams, je ne vois pas non plus de joueurs hyper, hyper établis pour renforcer l'intérieur de la ligne, surtout qu'on le rappelle, Foley Fatou Keissi est parti. Alors, j'ai eu beaucoup de petits points d'interrogation. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Je pense qu'on ne parle pas beaucoup, pas suffisamment en tout cas à mon sens, d'un profil comme John Ridgeway, notamment le lineman défensif d'Arkansas, hein, ancien de FCS également, qui peut être plus intéressant sur le run stop. Donc ça peut être un joueur à surveiller. Moi, j'avoue, je suis parti sur la même logique de renforcer le pass rush. Je suis parti sur un joueur qui est peut-être beaucoup plus qui pose beaucoup plus de points d'interrogation sur le run stop, mais qui peut être vraiment une machine en termes d'agressivité pour aller chercher le quarterback adverse. J'aime beaucoup Neil Farrell de LSU, qui peut éventuellement, alors je ne sais pas, éventuellement, quatrième ou cinquième tour, j'ai encore du mal à l'évaluer, mais pour moi, ça peut être un solide quatrième tour, très clairement, surtout dans une position de lineman défensif, où derrière, peut-être, aller... on va dire 3-4 profils, ça paraît un peu plus homogène. Donc très franchement, après, ça peut être le goût et les couleurs. Donc voilà, encore une fois, Neil Farrell qui a connu quelques petits problèmes de blessure également, il me semble, durant son cursus du côté de Bâton Rouge, mais qui, je le disais tout à l'heure, peut avoir ce côté extrêmement agressif sur le premier contact, une très bonne explosivité au snap. Et je pense que sur l'intérieur de la ligne, et pour aider en plus les edge rushers sur l'extérieur, ça peut être un joueur qui est capable d'attirer l'attention, qui doit être beaucoup plus discipliné, je pense, d'un point de vue technique, pour ne pas se faire exclure du jeu sur le run stop, mais qui en tout cas a une marge de progression qui n'est clairement pas négligeable. En tout cas, dans ce processus draft, je trouve qu'il n'a pas fait de tâche par rapport à d'autres.
Oui, je suis d'accord avec ça.
Donc voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur les New York Jets qui auront donc, on le répète, le quatrième et le dixième choix de la prochaine draft lors du premier tour. Merci encore, Victor, d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve demain. On parlera encore de New York, mais cette fois-ci, on s'intéressera aux G-Men, les New York Giants. Très bonne journée à tous. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Ciao.